Mais dans sa poche, sa main étreignait fortement le sac de perles, comme si seul le contact des perles minuscules et fraîches contre sa paume pouvait le faire croire à la réalité du miracle. Dans sa poche, ses doigts trouvèrent l'ouverture du sac. Il l'ouvrit et glissa ses doigts dedans. Contre l'étoffe pelucheuse, il pouvait palper les pièces et les billets dont il était rempli. Et il était bien rempli. Des visions enchanteresses passèrent devant ses yeux. Vision de tous les plaisirs qu'allait lui procurer cet argent. Il se voyait déjà vêtu avec élégance, savourant des mets délectables, goûtant enfin au luxe et aux splendeurs de la vie dont il avait rêvé tant d'années. Avant d'atteindre le bout de l'allée, il se retourna et lança un dernier coup d'œil derrière lui. Et en ce bref instant, tous ses rêves se brisèrent. Debout devant la poubelle miraculeuse se tenait un grand jeune homme en tenue de chauffeur. Leurs regards se croisèrent, et bien que l'expression du jeune chauffeur soit tout à fait anodine, cela suffit à provoquer la panique dans l'esprit du chiffonnier. En un éclair, il imagina qu'on avait dû s'apercevoir de la disparition du sac de perles, qu'on avait cherché partout, qu'on avait pensé à la poubelle, et envoyé le chauffeur pour essayer de le retrouver. De toute évidence, il allait comprendre que c'était le chiffonnier qui l'avait pris. On allait avertir la police. Et voilà que le monde que le pauvre homme avait toujours redouté allait étendre sur lui ses mains froides et cruelles. Il était devenu un délinquant. Cette seule pensée le rendit fou de terreur. Une sorte de frénésie s'empara de lui comme un petit animal pris au piège. Dans son affolement, il lui apparut que la seule possibilité de se sauver encore était de rendre le sac de perles à sa propriétaire. Sans réfléchir davantage, il se pressa de quitter l'allée et tourna le coin de la rue. Il longea le trottoir jusqu'à l'élégante résidence de pierre grise d'où il croyait que le sac provenait. La peur, l'effroi même lui coupaient le souffle. Lorsqu'il s'approcha de la grille du portail, il repéra la sonnette et appuya d'un coup bref sur le bouton. La porte s'ouvrit au bout d'un instant. Dans le vestibule, brillamment éclairé, il aperçut la silhouette d'une jeune femme, vêtue d'un strict ensemble noir et blanc. Il osait à peine lever les yeux sur son visage, mais il éleva le sac de perles avec l'humilité d'un prêtre élevant une offrande devant l'autel d'un dieu courroucé. Il marmonna « J'ai trouvé ça dans la poubelle ». La femme de chambre reconnut aussitôt le sac de sa maîtresse. Elle comprit qu'on avait dû le jeter avec le carton à chapeau qu'elle avait descendu le matin de la chambre. Elle n'en craignit pas moins les conséquences de sa négligence et elle se garderait bien de dire la vérité sur la disparition du sac et surtout de quelle façon elle l'avait retrouvé. Elle le rapporta donc dans la chambre de sa maîtresse qui était en train de s'apprêter pour aller dîner dehors.
« J'ai trouvé votre sac sur le piano, Mrs. Fairbairn. »
Sans se détourner de la coiffeuse où elle était en train d'arranger ses cheveux, la dame répondit simplement
« Mets-le dans le tiroir, Hilda. »
Quelques minutes plus tard, le coursier d'une maison de couture se présenta in extremis avec un grand carton. Hilda le monta dans la chambre de sa maîtresse, le posa sur le lit et lui tendit la facture qui s'élevait à quelques centaines de dollars. Mrs. Fairbairn ouvrit son sac de perles et en préleva la somme demandée, pratiquement tout ce qu'il contenait, qu'elle tendit à la femme de chambre. Puis, elle ouvrit le carton et sortit de son emballage de papier de soie un manteau de soirée d'un tissu blanc et diaphane, parsemé d'éclats de métal brillant. Elle le tendit un moment sous la lampe et l'observa d'un œil critique. Puis, elle le jeta sur son lit, son beau visage délicat tordu en une grimace de dégoût.
Franchement, je ne devais pas avoir toute ma tête quand j'ai acheté cette horreur. Comment ai-je pu penser une minute que je porterais un truc aussi ridicule ?
Elle retourna à son miroir et recommença à lisser les boucles dorées de sa chevelure. Elle avait déjà oublié cette petite contrariété et son visage reprit son expression habituelle d'autosatisfaction souriante.
Bon, voilà, faut faire attention hein, quand on achète des bijoux, Mireille.
Bah oui, oui, c'est... Moi, j'en connais plein, mes coffrets.
La chance.
Alors, pendant les 3 années qu'il passe dans l'université du Missouri, Williams affirme ses prétentions littéraires et soumet ses textes au théâtre de la faculté, avec succès dans la plupart des cas. Mais au bout de ces 3 ans, son père décide, pour des raisons d'argent, de le déscolariser. Et donc, il le fait placer comme manutentionnaire dans l'usine de chaussures où il travaille. Et pendant 2 ans et demi, William s'occupe de ce poste avec une certaine répulsion. La nuit, il écrit des poèmes qu'il fait publier, mais il va passer une période plutôt désenchantée, déprimée, et il est hospitalisé en mars 1935 pour dépression nerveuse. Dans cette même période, sa sœur Rosa fait sa première crise de démence. Délaissant définitivement l'usine, Williams va reprendre le chemin des études en s'inscrivant à la Washington University de Saint-Louis, toujours dans le Missouri. Dans cette même année, Williams décide de se consacrer au théâtre. Et sa toute première pièce, Kero Chengai Bombay, est jouée dans l'été par une petite troupe de Memphis. La revue de la faculté publie l'été suivant, en 1936, sa nouvelle « 27 remorques pleines de coton » qui inspirera plus tard le film « Baby Doll ». Et donc à l'automne, tandis qu'il poursuit ses études à la Washington University, sa deuxième pièce, The Magic Tower, est jouée par une troupe de Saint-Louis.
Oui, donc Baby Doll, hein, traduit le titre du film en français, La Poupée de Chair, qui a été adapté au cinéma par Elia Kazan en 56.
Très beau film.
Et finalement, beaucoup de ses nouvelles vont être adaptées au cinéma. On peut en parler tout à l'heure. Et c'est vrai que, en t'écoutant, finalement, toute sa vie, il a été écrivain au final, parce qu'en dehors des 2 ans là où son père le place dans l'usine de chaussures.
Oui, mais il écrit quand même.
Il écrit quand même
la nuit.
C'est sa seule expérience professionnelle autre. Et c'est quand même assez rare, hein, les gens qui réussissent à être écrivain comme ça dès le départ, dès la jeunesse. Je trouve.
Donc là, vous allez écouter une nouvelle inédite, donc qui est parue là récemment dans ce recueil, voilà, dont j'ai pas noté le titre, excusez-moi. Et donc cette nouvelle s'appelle Je te donne une pomme.
Bah, je crois que c'est les nouvelles.
Je sais plus.
Oui, c'est ça. Les nouvelles de Tennessee Williams. Ils ont regroupé les nouvelles dans en livre de poche.
Merci.
Ouais, je crois.
Et donc c'est une nouvelle qui a été écrite vers 1936.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Une heure qu'il avait quitté les collines, il marchait sous le soleil qui lui brûlait la nuque. La sangle de toile de son sac lui écorchait les épaules et il ressentait chaque secousse dans le bas du dos. Il le changeait de place de temps en temps, mais aucune position ne lui apportait plus qu'un soulagement passager. Seul passaient quelques rares voitures. C'était pour la plupart des tacos poussiéreux où s'entassaient des familles. Les gosses lui faisaient des grimaces et des signes, mais les adultes faisaient semblant de ne pas le voir. Une Ford 1932 s'arrêta à son niveau. Elle était occupée par 3 hommes, visiblement sous, et une femme. La femme se pencha à la fenêtre pour lui demander s'il avait de l'argent.
« J'ai 65 cents. »«
Ah, bah ça ne nous avance pas beaucoup. Nous avons laissé la route secours en gage pour payer le dernier plein. Et maintenant, nous cherchons un passager pour payer l'essence. Vous comprenez, n'est-ce pas ?»
La voiture démarra brusquement et la femme disparut à l'intérieur. Il constata qu'elle avait dit la vérité. À l'arrière, il n'y avait plus que le support vide de la roue de secours au-dessus des plaques orange et noire du Nouveau-Mexique. Bon Dieu, pensa-t-il, s'il faut que je marche jusqu'à Lexington. En Californie, il est relativement facile de faire du stop, mais plus on va vers l'est, et plus les gens semblent devenir méfiants. C'est peut-être parce que sur la route, votre aspect a tendance à se dégrader. Vos vêtements se couvrent de poussière, et les désappointements successifs rendent plus difficile le sourire engageant qu'il faut afficher pour donner aux automobilistes l'envie de s'arrêter. Lorsqu'on est frais et dispo, on peut exercer une sorte de contrainte morale sur les conducteurs. Ça se passe surtout au niveau des yeux. Vous vous appliquez à exprimer quelque chose dans votre regard qui attire leur attention et, à moins que ce ne soit de vrais fils de pute, ils ne peuvent faire autrement que de s'arrêter. Mais ça, c'est dans l'ouest. Plus loin, vers l'est, ce sont tous des fils de pute. La moitié du temps, s'il y en a un qui s'arrête, c'est un PD, et vous devez vous laisser tripoter pour payer votre voyage. Ou alors c'est un ivrogne qui s'en prend à sa femme, maudit son patron, et vous faites dans votre froc de peur de le voir se planter dans un virage à 110 km à l'heure. Ou encore, comme dans la Ford dont je viens de parler, ce sont des fauchés qui veulent que vous participiez aux frais d'essence. Il regarda en arrière. Le soleil descendait vers les collines. Sa forme devenait distincte dans le déclin de son éclat brûlant. Il était parfaitement rond, un peu flou sur les bords, comme une balle de tennis rouge. Dans la lumière moins intense, toutes les formes semblaient ressortir plus nettement. Quelques minutes plus tôt, la ville dont il s'approchait semblait perdue dans un halo flottant. Maintenant, elle prenait des contours définis. Il voyait le soleil couchant se refléter sur le clocher et sur les toits pointus des maisons, nichés sur le versant des collines, loin devant lui. Il se demandait s'il pourrait les atteindre avant la nuit et trouver là-bas un endroit pour dormir. Il aperçut soudain, devant lui, une voiture avec une roulotte. C'était une très vieille voiture couverte de poussière. Les roues arrière de la roulotte n'avaient plus de pneus. Elle devait être là depuis pas mal de temps. Un tuyau de poêle en fer blanc sortait du toit pointu et laissait passer un mince filet de fumée. Tout autour étaient disposés des paniers et des poteries. Sur le flanc de la roulotte, qui faisait face à la route, pendaient des chapelets de calebasses d'un rouge velouté, d'un orange vif ou d'un jaune pâle. Cet étalage avait dû rester là tout l'été pour attirer les touristes qui revenaient des collines. En s'approchant de la roulotte, par derrière, il aperçut à travers les rideaux de toile l'énorme silhouette d'une femme aux cheveux noirs. Il se demanda un instant comment elle pouvait vivre dans un espace aussi réduit. Cela le faisait penser à cette bonbonne qu'il avait repêchée un jour dans la rivière Sunflower. En plongeant d'un tronc d'arbre, il avait touché des mains une grosse fiasque gisant sur le sable du fond. Il avait fixé une corde à l'anse de la fiasque et, avec l'aide d'un copain, il l'avait sortie de l'eau. À l'intérieur se trouvait un énorme poisson-chat. Ils se demandèrent comment il avait pu faire pour y rentrer. Il était bien trop gros pour passer par le goulot de la bouteille. Il avait dû y pénétrer tout jeune et avait grandi à l'intérieur. Trop gros maintenant pour en sortir. C'est à cela qu'il pensait en regardant cette grosse femme dans sa roulotte. Ses copains avaient voulu briser la bonbonne et faire cuire le poisson pour le dîner. Mais cette idée lui déplaisait. Il voyait un maléfice dans ce poisson chat qui avait grandi dans une bouteille. Il avait commencé à dépasser la roulotte lorsqu'il croisa le regard sombre de la femme braquée sur lui à travers les rideaux de toile. Il s'arrêta sur le bord de la route et dit
« Salut !»
Elle sortit sur la petite plateforme. Il entendait les planches grincer sous son poids. Elle se tint au-dessus de lui, clignant les yeux dans le soleil. Elle avait un visage semblable à celui du poisson-chat, foncé et aplati. Des poils drus au-dessus de la lèvre supérieure. Ses bras étaient croisés sur sa grosse poitrine molle. Elle était vêtue d'une combinaison de soie bon marché. Ses jambes et ses bras bruns étaient nus et flasques. Il fut surpris de voir qu'elle avait même quelques poils noirs sur la poitrine, que dévoilait l'encolure de sa combinaison. Il n'avait encore jamais vu une femme avec des poils sur la poitrine. Cela le faisait penser à cette hermaphrodite qui s'exhibait dans une baraque de foire à Dodge City. L'aboyeur montrait du doigt cet homme-femme, une partie complètement femelle, l'autre complètement mâle, à ce qu'il disait. Et pourtant, cela ne semblait guère possible.
Salut, vous m'achetez quelque chose ?
Je n'ai pas d'argent, mais je pensais que vous pourriez me donner quelque chose à manger.
La femme ne dit rien. Elle clignait des yeux dans le soleil et gardait un silence bienveillant. Il regardait les colliers de sauge, de fenouil, d'ail et de poivrons séchés qui pendaient dans l'embrasure de la porte. Il pensa à une nourriture riche, bien grasse. Il sentit l'eau lui monter à la bouche. La femme rentra dans la roulotte. Il l'entendait remuer à l'intérieur comme le poisson-chat gigotait dans sa bouteille, qu'ils avaient vidée de son eau. Une vilaine action qu'ils avaient faite là. Ils étaient restés accroupis à le regarder se débattre, jusqu'à la fin. La femme revint sur la plateforme.
« Je te donne une pomme. »«
Oh, merci. »
Il tendit la main et vit que sa paume était luisante de sueur sale. Il l'essuya rapidement sur son pantalon de velours, puis l'attendit à nouveau. La pomme était d'un rouge sombre, comme du vin. Rien qu'à la toucher, il aurait pu dire le goût qu'elle avait. La femme s'assit sur la plus haute marche de la roulotte.
Asseyez-vous.
Merci.
Il s'assit sur la marche du bas, porta la pomme à sa bouche et en fit craquer la dure peau rouge. Le jus sucré en sortit et ses dents s'enfoncèrent dans la chair ferme et blanche du fruit. C'est comme un acte d'amour, pensa-t-il en broyant la peau et la pulpe entre ses dents. Sa langue savourait le jus sucré. Il se lécha les lèvres qui s'ouvrirent en un sourire sensuel. La pulpe fondit dans sa bouche. Il essaya de ne pas l'avaler pour faire durer le plaisir, mais elle fondait entre ses dents. Elle devenait liquide et descendait jusqu'à sa gorge. Il n'y pouvait rien. C'est comme l'acte d'amour, pensa-t-il à nouveau. On essaie de le faire durer et durer, mais arrive un moment où on ne peut plus se retenir. Il faut aller jusqu'au bout, il faut finir. Et après, d'une certaine manière, on se sent floué.
C'était bon. Je n'ai jamais mangé une pomme aussi bonne.
C'est parce que tu as faim ?
Oui, peut-être.
Elle retourna à l'intérieur. Il vit qu'elle se penchait à nouveau sur le panier et qu'elle prenait une autre pomme. Bien. Il sortit son couteau de sa poche et racla les derniers morceaux de chair blanche qui restaient sur le trognon pour bien lui montrer qu'il avait vraiment faim. Elle réapparut, mais ne lui offrit pas la deuxième pomme. C'est elle qui la mangea, en ouvrant ses immenses mâchoires et en mâchonnant comme un cheval. Il détourna les yeux. Tout à coup, il se sentit très fatigué. Ses jambes étaient douloureuses. Il faisait bon être assis là au soleil, boule ronde et orangée, juste au-dessus de la ligne pourpre des collines boisées. Le vent se leva sur les champs. Il faisait s'incliner les hautes herbes et soupirer les feuilles des saules. Il pensa à cette femme qui était restée là tout l'été, dormant la nuit sur sa couchette au bord de la route, son grand corps brun de femelle étendu sous la lumière de la lune, les bras écartés pour accueillir le vent frais comme un amant, la chair moite de sueur. Il la regarda à nouveau et se sentit obligé de parler pour retenir le sourire stupide qui lui venait aux lèvres.
« Quelle heure est-il ? »
Elle répondit par un vague grognement. Il remonta la ceinture de son pantalon.
« Votre homme est parti à la ville, pas vrai ?»«
Ouais, avec mon fils, ils sont partis en ville, pour se saouler la gueule. »
Elle émit un petit rire.
« Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ?»
Elle souffla du nez, retroussa ses lèvres et le regarda. Mais ses yeux ne s'arrêtèrent pas sur son visage. Ils descendirent le long de son corps. Il pouvait presque les sentir sur lui. Il se renversa en arrière comme pour répondre à son étrange caresse et appuya ses épaules contre les rondeurs de ses genoux. Ils étaient mous, on aurait dit sans os. Il se demanda quel âge elle pouvait avoir. 45, 40, peut-être même un peu moins. Elle a parlé de son fils, parti se saouler avec son père. Il doit avoir à peu près mon âge, pensa-t-il. Mais les gens du Sud, au teint mat, deviennent adultes très tôt.
Qu'est-ce que vous allez faire ?
Moi, je vais me faire à dîner.
Qu'est-ce que vous avez pour le dîner ?
De la viande.
Un bon morceau ?
Ouais, un assez gros morceau.
Assez gros pour deux ?
Je sais pas. Il faut que j'en garde pour mon fils.
Il aura sûrement mangé en ville.
Je sais pas.
Il sourit et plissa les yeux. Mais elle regardait ailleurs. Elle gardait les yeux fixés sur la boule du soleil qui dardait maintenant de larges rayons de lumière orange pâle entre les nuages d'un gris duveteux. Cela faisait penser à une robe que sa sœur avait portée un dimanche de Pâques. Les rues pavées d'or. Ah oui, des raies noires. L'escalier de secours ? Non, les rails du viaduc. Et le train qui passe dessus en sifflant. Sa mère, comme sa voix est claire. « Irma, ne reste pas près de la fenêtre !» La poussière vole à l'intérieur. La confirmation. 5 œufs peints dans un coin. Bleu pâle et rose et jaune et vert. Des œufs durs. Est-ce qu'il les a mangés ? Dieu que c'est bon les œufs bien durs. Le blanc se détache tout seul du jaune. Le jaune, balle ronde, riche et grenu. Une pâte qui se colle aux dents, son goût reste longtemps dans la bouche. Il aurait bien aimé manger un œuf dur.
J'ai encore un peu faim.
Dans un brusque mouvement, elle leva la main, lui passa les doigts le long de la nuque, sous le col de sa chemise. À ce contact, il eut un mouvement de recul. mais il garda les yeux fixés sur son visage.
Tu as la peau aussi douce qu'une fille.
Merci.
Quel âge as-tu?
19 ans.
Elle grogna, comme si elle avait été piquée par une épingle. Elle se leva et lui lança un léger coup de pied taquin avec le bout de sa pantoufle poussiéreuse.
Allez, t'es trop jeune.
Qu'est-ce que vous voulez dire, trop jeune?
19 ans, c'est juste l'âge de mon fils. Vaut mieux que tu t'en ailles.
Il leva les yeux vers elle et comprit que ce n'était pas la peine d'insister. Grande, lourde, sombre, elle se tenait dans l'ouverture de la porte. Elle fronçait légèrement les sourcils en regardant le soleil. Vieille métèque dégueulasse. Ce genre de bonne femme s'impose à elle-même de petites règles, plus sacrées que la loi sainte. S'il avait répondu 21 ans, ou peut-être même 20, ça aurait pu coller. Mais pas 19, parce que c'était l'âge de son fils.
Oh bon.
Il se leva d'un mouvement souple, brossa son pantalon et reprit son sac sur l'épaule. Il se sentait plus léger. Il descendit vers la route en riant et regarda une dernière fois par-dessus son épaule. La voiture et la roulotte se détachaient distinctement dans la lumière dorée. Les champs s'assombrissaient et le crépuscule devenait grisâtre. On ne voyait plus qu'un bout de soleil orange au sommet des collines, dans un grand embrasement. Ses yeux se posèrent à nouveau sur le toit de la roulotte. Il vit un mince filet de fumée s'échapper du tuyau et entendit des bruits de casseroles. La vieille était à l'intérieur, comme un poisson-chat pris au piège dans une bouteille. Elle se préparait un dîner qu'elle mangerait toute seule. Les coudes appuyés de chaque côté du plat de fer blanc, les épaules voûtées. Et elle ferait passer son dîner avec un café noir, très fort et brûlant. Une viande riche, bien grasse, un bon morceau, vieille salope. Enfin, elle mourrait bien un jour, d'une vilaine maladie, comme le cancer, qui avait peut-être déjà commencé son travail dans sa chair brune. Bien fait pour cette vieille salope radine. Il reprit sa route, l'air était frais, le vent s'était levé. Devant lui apparaissait la forme blanche de hauts bâtiments sous la pâle lumière jaune. Il gardait encore dans la bouche le goût de la pomme qu'il avait mangée, fraîche et sucrée. Et peut-être que c'était mieux ainsi, d'avoir ce goût-là dans la bouche, le goût propre et blanc d'une pomme.
Bon, on se rassure comme on peut, hein.
Ben voilà.
À défaut de viande, on mange de la pomme.
Voilà. Comment on dit ça? À défaut de grive, on mange des merdes.
Bravo, Mireille. Non, mais je te disais là hors micro que c'est très bien observé quand même. C'est tous ces personnages en marge comme ça, qui forment des tableaux en soi. Hein. C'est vraiment la description, elle est très bien faite. Hein.
Alors, à la fin de l'été 1937, Tennessee Williams prend sa distance avec sa famille et il va quitter Saint-Louis sans regret, hein, car la ville va lui laisse de bien mauvais souvenirs. Alors, dans le même temps, sa sœur Rose, qui est schizophrène, est déclarée mythomane et dépressive par sa mère Edwina, après qu'elle ait dénoncé son père pour attouchement sexuel.
Oui, c'est un drôle de diagnostic. Hein. Elle dénonce son père pour attouchement et elle est schizophrène.
Voilà, mais donc à l'époque, voilà, c'est à l'époque, des choses qui n'étaient pas forcément entendables. Hein. Alors sa mère refuse donc obstinément de donner crédit aux propos de sa fille et elle l'a fait interner dans un sanatorium, puis à l'hôpital. Et ces événements plongent Thomas Williams dans une peine profonde qui rejaillira sur son inspiration théâtrale dans les années 50.
Oui, parce qu'il y a des personnages équivalents tout à fait de sa sœur qui apparaîtront dans les pièces et
voilà,
les
nouvelles, c'est ça. Hein. Par exemple, notamment un texte qui s'appelle « Soudain l'été dernier », ouais. Hein, voilà, où le rôle de la sœur est
clairement
interprété
Rose,
par Elizabeth Taylor.
Tout
voilà.
À fait.
Et il y a Montgomery Clift aussi.
Encore.
Et Catherine Bird.
Pas mal la distribution.
Donc il va partir vivre à la Nouvelle-Orléans où il mène une vie de bohème, exerce des petits métiers et connaît ses premières expériences homosexuelles. Il écrit des pièces en un acte et signe en septembre un contrat avec Audrey Wood qui devient son agent littéraire et le restera pendant plus de 30 ans. Au début de 1940, il va s'installer à New York. Il n'est pas très fortuné, mais il écrit beaucoup et traîne la nuit dans les bars de Times Square. En février, il est présenté au public avec succès la première de ses pièces montées à New York, The Long Goodbye. en 1941, lorsque les États-Unis entrent en guerre, Tennessee est réformé en raison de son dossier psychiatrique, de son homosexualité, de son alcoolisme et de ses troubles cardiaques et nerveux.
Oui, ça bon, fait beaucoup.
Ça fait un bagage. Hein,
pour voilà, l'armée,
voilà,
oui.
Voilà, puis même pour lui apporter.
Voilà.
Surtout qu'il est encore jeune. Voilà. En janvier 1943, sa sœur Rose va donc subir une lobotomie frontale, événement qui marquera profondément son frère.
Oui, il va culpabiliser en fait toute sa vie hein, à propos de cette sœur qui était peut-être tout juste fantasque, ou, mais bon, un peu hors ligne, et du coup, ça va lui coûter cher à la sœur.
Et donc à l'époque, il y a quand même. C'était une pratique assez courante. Hein, voilà, dès que les gens étaient pas dans les clous comme le souhaitaient les familles.
Hop, une petite lobotomie. Voilà. Et là, de mémoire, j'avais entendu une émission sur France Culture. Je crois que la lobotomie avait été, alors on met des guillemets, offerte. C'est-à-dire que c'était gratuit pour lancer les lobotomies. Mmh. Donc la mère de Rose, la mère de Tennessee Williams et de Rose, avait sauté un peu sur l'occasion. Mmh. C'était gratuit, donc tac, bah oui, donc, on essaye.
Alors... Les cinq années à venir vont marquer un véritable tournant hein, dans la vie de Tennessee Williams et conduire celui-ci vers la gloire. Alors, il va se rendre à Hollywood. Il est engagé par la Metro-Goldwyn-Mayer pour faire l'adaptation cinématographique d'un roman à succès. Alors, cette tâche de réécriture l'ennuie plutôt hein, et il écrit son propre scénario. Très largement autobiographique, que la MGM va refuser. Il en fait une pièce, La Ménagerie de Verre, où il met en scène sa mère et sa sœur. Celle-ci est d'abord montée à Chicago en 1944, puis à New York en 1945. Il connaît ainsi, à 34 ans, une célébrité soudaine marquée par la récompense du New York Drama Critics Circle Awards.
Oui, c'est vraiment le théâtre, hein. On s'aperçoit de ça, hein, qui fait son succès mais précoce, parce qu'après, on verra vers la suite de sa vie, il va rester les dernières 20 années de sa vie, il restera un peu dans l'ombre de ce qu'il a été finalement, tellement le succès est précoce.
Donc maintenant je vous propose d'écouter une nouvelle justement écrite vers 1945 qui s'appelle Les Cochenilles, et donc cette nouvelle a fait partie du manuscrit Pieces of Loose publié en 1980 dans la revue Esquire.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff quoi.
Billy Fuxworth pestait depuis des jours contre les cochenilles qui tissaient de grandes lâches d'une étoffe transparente et grise sur les arbustes touffus qui entouraient leur chalet d'été sur le cap. Sa femme, Clara, avait ses propres rêves et ses propres préoccupations. Elle l'avait écouté rouspéter sans y prêter attention. De temps à autre, elle lui jetait un regard sombre. Si seulement il savait, pensait-elle. Il se moquerait bien de ses cochenilles. Une seule fois, elle avait vaguement demandé, la tête ailleurs.
Des cochenilles ? Qu'est-ce que c'est que ça ?
Mais elle n'avait pas vraiment écouté ses explications. Il avait dû parler pendant un bon moment parce que l'esprit de Clara avait eu le temps de décrire une large orbite dans ses réflexions personnelles avant qu'il ne ramène son attention dans l'immédiat en posant brusquement sa tasse à café sur la soucoupe et en s'exclamant sur un ton irrité.
Arrête de répéter « oui, oui, bon Dieu », alors que tu n'écoutes pas un mot de ce que je te raconte.
Je t'écoute. Tu étais encore en train de maugréer comme une vieille femme contre tes cochenilles. Qu'est-ce que tu veux ? Que je reste là, assise, les yeux béants d'admiration, pendant que...
Bon, tu m'as demandé ce que c'était, j'essayais de t'expliquer, c'est tout.
Je m'en fiche. Peut-être que toi, elle t'ennuie, mais moi, elle ne me dérange pas du tout.
Cesse de faire l'enfant.
Il y avait une terrasse ensoleillée à l'arrière de la villa. Clara se reposait l'après-midi dans une chaise longue, tout au plaisir de sa réflexion personnelle pendant que Billy travaillait sur sa machine à écrire, juste à côté, sous la véranda. Pendant ces 5 dernières années, Clara n'avait jamais pensé à l'avenir. Mais leur avenir était devenu maintenant un problème réel, car elle détenait depuis peu des informations concernant Billy, auxquelles Billy lui-même n'avait pas accès. Billy n'était pas censé savoir ce qui lui était arrivé. Non, il ne le savait pas. Elle en était sûre. Ou s'il savait, c'était seulement dans la zone de la subconscience, où il se dissimulait la vérité, soit parce qu'il n'osait pas l'affronter, soit parce qu'il refusait de l'accepter. Voilà pourquoi sans doute il avait eu cet été-là ce comportement si enfantin. Pourquoi il restait à pester comme un idiot contre ses chenilles, alors qu'on était déjà à la fin de l'été, qu'ils allaient bientôt rentrer à New York, et qu'il était presque certain